RMC Running.
Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Toujours avec le seul, l'unique, Yoann Durand. Comment tu vas?
Salut à tous, salut Amine. Ça roule?
Ça va très bien.
Bah ouais.
En très bonne compagnie aujourd'hui.
On est bien, ouais. Là, on va parler d'un sujet qu'on adore, qui me tient à cœur, c'est vrai.
Épisode très spécial parce qu'on entame une collaboration avec Enduro, le laboratoire qui aide les athlètes à optimiser leur performance et qui va surtout accompagner Yoann Durand pour son dernier gros projet.
Ils vont m'aider, ils ont du boulot. Hein.
Ah
là,
ouais
là, je vais leur donner la patate chaude. Ils vont avoir du travail.
Yoann qui prépare son dernier marathon compétitif.
Oui.
On peut le dire comme ça.
On peut l'appeler comme on veut, mais disons que le dernier marathon où je vais me mettre un objectif de performance pour essayer d'aller me rapprocher des 2h, ouais. 2h10, 2h9, 21, ça me paraît compliqué. Mais essayer de prendre du plaisir dans toute la préparation et essayer de pousser le curseur au maximum.
Et là, tu mets tout ce qu'il faut en place pour perfer au maximum.
Exactement. On va se régaler.
Et pour ça, on est avec les spécialistes du sport science, la data science avec nous. On a Joseph Mesralet qui est avec Enduro. Et ensuite, on a Anthony Sayou, performance data scientist. Comment vous allez?
Très bien, très bien. Incroyable d'être là à la maison.
Bah ouais, on est chez toi là.
Hein. Exactement, c'est
ça.
Ouais.
Ils sont à 10 km. Hein.
Joseph, fondateur d'Enduro.
Pardon?
Fondateur d'Enduro.
Exactement, c'est ça, ouais. Le laboratoire de la performance, et on est plusieurs dans l'équipe, notamment Anthony. Donc c'est un plaisir de pouvoir vous aider justement sur ce projet.
Magnifique, alors enfilez vos baskets, sortez les calculatrices. C'est un nouvel épisode ici à Chamonix. Eh bien, ravi d'accueillir Joseph Mesralet, fondateur d'Enduro. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas encore Enduro, qu'est-ce que c'est?
Alors, Enduro, globalement, c'est un laboratoire de la performance, donc on essaye d'optimiser toutes les performances, notamment en endurance, grâce aux données. Donc en fait, moi je suis un matheux de formation, j'ai fait pas mal d'études en data science et j'essaye d'utiliser ça pour optimiser la performance des athlètes, pour leur permettre de prendre les bonnes décisions et leur permettre d'aller gagner quelques minutes ou quelques secondes sur un marathon par exemple.
Fan de mathématiques?
Exactement, je suis un peu grand passionné, un plus un.
Deux?
Oh là là, trop facile!
Bah, je peux dire que je suis passé de mathématiques maintenant. Franchement, je m'approprie le label. Alors, Anthony, du coup, tu t'occupes aussi des data science. Comment on fait en sorte d'optimiser au maximum les curseurs de progression pour un athlète?
Alors, déjà, le premier point, c'est de les mesurer. On travaille beaucoup avec des capteurs. Donc, dans le monde de l'endurance, c'est de plus en plus répandu. Les montres, mais nous, on va vraiment aller plus loin. C'est-à-dire que, alors déjà, le capteur cardiaque, pour nous, c'est forcément brassard ou ceinture. Mmh. On va, pour avoir une mesure plus précise, et on va aller chercher en fait au quotidien de l'athlète des données plus poussées avec les données de sommeil, de HRV, et parfois des données en fait auxquelles les athlètes ne vont pas forcément penser au quotidien. Tout à l'heure, et on a discuté un peu avec Johan, mais on parle de mesures d'oxymétrie quand on s'entraîne en altitude, on parle de mesures de concentration dans les urines, on parle de toutes ces choses-là.
Ça va loin.
Oui, ah, c'est poussé.
Ouais, c'est poussé. Et ça, c'est du suivi qu'on fait donc à l'année et même sur plusieurs années avec des athlètes pour optimiser à la fois, là on parle de performance le jour J, hein, mais on est sur une course, sur l'UTMB, mais il y a aussi en fait tout l'entraînement au quotidien. Et ça part donc de mesures qu'on a au départ avec des tests et des mesures qu'on a avec des capteurs qu'on utilise tous les jours.
Et donc voilà. RMC Sport s'associe avec Enduro justement pour accompagner Yoann pendant sa préparation de marathon. Là pour le coup, tu vas utiliser toutes les données que tu vas fournir à Enduro qui va les analyser, qui vont ensuite te faire un retour sur l'expérience pour te dire qu'est-ce qu'il faudra améliorer ensuite à l'entraînement, c'est ça?
Ouais, c'est ça l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un suivi pour me permettre d'aller chercher la meilleure performance possible, mais surtout de faire la meilleure préparation possible, d'avoir une vraie stratégie de course le jour J, mais surtout d'adapter certainement les entraînements en fonction de la fatigue accumulée, en fonction de la fatigue du moment, en fonction de la fatigue des voyages, des trucs comme ça. Et ça, c'est vrai que les datas sont un vrai plus pour pouvoir mesurer ce que des fois le ressenti ne peut pas quantifier. Des fois, on a l'impression d'être en forme, on est un peu euphorique, tout va bien et tout. Et tes data, elles te disent, attention, t'es en zone un petit peu orange, garçon, faut peut-être lever le pied. Et donc, du coup, c'est ça, l'idée, c'est d'aller chercher, de s'associer à la meilleure équipe possible pour aller chercher le meilleur chrono possible. Ouais.
Et Enduro qui s'est fait connaître notamment l'année dernière sur les victoires UTMB de Tom Evans et de Russ Croft qui ont été accompagnés en longueur par Enduro. Les data les ont aidés justement à performer sur ces courses-là?
Joseph. Ouais, c'était un gros travail sur le pacing, notamment au début, pour essayer de comprendre quelle était la meilleure stratégie d'allure sur un UTMB, parce qu'en fait on peut partir trop vite, trop lentement, etc. Et on travaillait avec un athlète qui avait abandonné déjà deux fois la course, et là justement pour lui dire, bah voilà, comment est-ce qu'on peut être plus intelligent dans ta gestion de course pour te permettre d'avoir le meilleur potentiel physiologique. Donc c'est très intéressant, et après ça allait beaucoup plus loin que ça en fait, sur toute l'année, sur justement la gestion de l'entraînement. Je pense que c'est même encore plus puissant pour justement réussir à donner des informations précises au coach, avoir un dialogue aussi constructif avec le coach. Ça c'est super important. Je pense que quand t'es athlète de haut niveau, tu vas toujours flirter un peu avec la ligne rouge de la fatigue, et du coup c'est aussi un moyen de t'apporter des informations très factuelles, non biaisées en fait, là-dessus, pour justement te permettre d'être encore mieux, d'aller chercher ces 1 ou 2% de d'aller chercher ces 1 ou 2% de performance en plus.
Est-ce qu'on peut parler de gains marginaux via les data science, ou est-ce qu'on est vraiment sur une toute autre perspective? On peut passer de 5-10% d'évolution dans la performance, je sais pas. Est-ce qu'on peut quantifier?
Je pense, c'est les gains marginaux, parce qu'on va chercher un peu partout. On va chercher sur la nutrition, on va chercher sur du sommeil, on va chercher sur le fait de s'entraîner au bon seuil. C'est pour ça qu'on a fait un test ce matin. Donc oui, c'est en fait, on va chercher un peu tirer sur tous les tableaux. Donc oui, c'est des gains marginaux. Et après, on réussit à monter à 2-3% de performance en plus. Mais ce qui est quand même déjà énorme en soi sur un chronomarathon, c'est quand même assez intéressant.
Et sur le long terme, l'idée c'est d'accompagner l'athlète et que ses gains marginaux deviennent pérennes.
Ouais, bien sûr. Ah, donc pour le coup, les gains marginaux, c'est de l'optimisation globale. Et moi, je pense, et en tout cas chez Enduro, on a vraiment cette vision où on veut aller sur un accompagnement à 3, 4, 5 ans. Ce ne sera pas le cas ici, parce que c'est vraiment le... Après, tu pars à la retraite, Johan. Donc,
après, je bascule sur le trail, c'est pas la retraite, attention. Ah, mais là, et là, j'aurai encore besoin de toi et encore plus.
On va peut-être bosser ensemble.
Ouais, c'est sûr.
Mais le but, en fait, c'est vraiment d'essayer de comprendre l'athlète dans sa globalité, avec vraiment une vision très performante sur le long terme. Tu vois, par exemple, quand on prépare un UTMB ou une Diag ou une Western Say, c'est réfléchi à 2 ans ou à 3 ans pour justement changer les capacités physiologiques et un peu le profil de ton athlète. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal. Ouais.
Anthony, on voit de plus en plus d'Enduro Report sur Strava. Qu'est-ce qu'un Enduro Report? D'ailleurs, t'es un grand fan de ça. Hein.
Ouais, moi, parce que comme ça, ça me rassure dans mes allures et je me dis, oh là là là, je suis pas si mauvais.
C'est quoi ce report?
Ouais, l'Enduro Report, alors c'est un outil qu'on a développé, alors qui est né à Chamonix, hein, avec le travail de Joseph et donc Alodi et Emric.
C'était un travail d'équipe, c'est vraiment un travail d'étudiant qu'on a lancé comme ça. Et le but, c'était juste d'analyser et de regarder à quel point les conditions météo allaient te coûter sur ta course. Et en fait, ça a pris, il y a eu pas mal de succès, et au fur et à mesure, on l'a développé plus.
Voilà, et aujourd'hui, c'est devenu, ça s'intègre en fait dans un dashboard complet d'analyse des séances. Donc, ce qu'on voit sur Strava, en fait, c'est qu'une porte d'entrée, hein, c'est qu'une ouverture. Donc, concrètement, hein, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent? C'est un correctif de votre allure d'entraînement par rapport aux conditions extérieures. C'est-à-dire le dénivelé, l'altitude,
la chaleur,
le vent, qui sont des informations en fait qui viennent nous un petit peu biaiser notre perception de la performance. On va faire un footing par exemple à 6 du kill, en ressenti il va être à 5,30 parce qu'en fait il fait 25-26 degrés. Quand on atteint des températures de 32 voire 37 comme on a pu l'avoir en canicule, c'est vraiment important de le quantifier et ne pas se frustrer non plus. Et d'en avoir conscience. On parlait de monitoring de l'entraînement, c'est vraiment ça. C'est de se dire aujourd'hui, pour mon corps, ce footing en fait représente du 5,30.
Et ça, c'est important.
C'est super important parce que j'ai des tas de copains qui venaient me voir qui me disent oh, j'ai progressé ou oh, j'ai diminué. Et en fait, je regardais un peu la performance. Il y avait une à 17 degrés et l'autre à 24 degrés. Et en fait,
c'est pas comparable alors.
Exactement. Non. Ah, mais non, mais pas du tout. Et je me souviens toujours la phrase de Scott Johnson, qui est le coach de Tom, qui disait toujours il faut comparer apples and apples. On compare une pomme et une pomme. Tu peux pas comparer une séance à 17 et à 24 degrés. Donc, c'est important en fait d'avoir cette finesse un peu. Et c'est là où la data est vraiment intéressante pour te mettre. D'être plus précis et d'être plus juste en fait dans ton analyse.
Et c'est là quoi, qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin. Là on parle d'une séance, mais du coup nous ce qu'on a essayé de construire autour de ça, c'est un dashboard entier sur lequel on analyse plusieurs séances pour comprendre ces tendances là et de se dire ah ben en fait on a des périodes dans l'année où on est exposé à plus de chaleur, des moments moins de chaleur, etc. Et donc on a un outil maintenant complet autour de ça pour analyser.
Un accompagnement avec un athlète comme Tom Evans, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des points d'étape réguliers avec lui? Est-ce qu'il vous envoie ses informations par distance? Comment vous faites?
Ouais, c'est vraiment un travail au jour le jour presque. Donc avec Tom lui-même, mais surtout aussi avec Scott Johnson, son coach, pour essayer de comprendre justement comment ça fonctionne, avoir tous ses ressentis. Donc on a la chance en fait d'avoir beaucoup de capteurs, ce qui nous permet en fait de pas tant discuter avec lui. Ça lui permet justement de lui enlever une charge mentale. D'accord. Et en fait, dès qu'il se réveille, ça va directement sur TrainingPeaks. On a toutes les informations et donc on peut regarder déjà si tout se passe bien. Après, les commentaires de séance, ils sont aussi super importants. Il y a au moins une discussion, un petit message par jour justement avec des athlètes comme Tom ou même Théo qu'on a accompagné cette année pour l'UTMB. Et là, pour le coup, mais c'est même plusieurs fois par jour et des échanges.
Génial. Toi, un accompagnement comme ça, régulier, c'est quelque chose qui t'intéresse forcément. Mais
oui.
Comment tu le vois? Parce que c'est une charge en plus. Forcément, c'est quelque chose qui n'était pas forcément dans ton quotidien et qui va arriver maintenant. Tu vas devoir envoyer tes informations, ils vont les récupérer. Et puis, dans quelle démarche, toi, maintenant, tu es?
Alors, c'est une petite charge en plus parce qu'effectivement, ça te demande à collecter des données, à dormir avec des capteurs un peu partout, d'uriner le matin dans une fiole, de faire tes tests HRV. Enfin, il y a tout plein de faire tes lactates sur les sorties. Mais... tu sais que c'est des, comme on disait tout à l'heure, des gains marginaux. Effectivement, ça te mord un petit peu de temps, ça te demande d'être ultra précis, d'être professionnel. Mais par contre, tu sais que les gains, ça vaut le coup, quoi. C'est pas des trucs pour faire des trucs. C'est parce que ça va modifier clairement la façon dont tu vas t'entraîner par rapport à toutes les données qu'on va collecter. Et je suis demandeur, donc c'est pour ça que y a ce projet est né. Moi, enfin, les lactates, j'ai commencé en 2015 la première fois où j'en ai fait. Le HRV, c'est pareil, en 2016 je faisais les tests HRV. Après, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté. C'est comme tout, sauf que là, en ce moment, je sens que c'est mon dernier marathon et je veux mettre tous les atouts de mon côté pour faire la meilleure performance possible. En 2016-2017, j'étais dans un autre état d'esprit et je voulais plus entendre parler de données. Je voulais juste courir et courir pour courir à l'ancienne, tu vois, presque sans montre, essayer de m'enlever de tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En 2026, j'ai envie d'être suivi et d'avoir un vrai truc. Et ça, c'est vrai que c'est à l'athlète aussi de le sentir. Ça sert à rien de proposer des données à des athlètes qui veulent pas le faire. J'imagine que c'est pas du tout.
C'est une vraie collaboration.
Ouais,
mais c'est sur mon cheval de bataille. Si l'athlète est pas motivé, mais alors on va au désastre le plus total. Donc honnêtement, faut vraiment être déjà convaincu. Et petit clin d'œil aussi pour Johan, faut vraiment que tu sois demandeur, que tu essayes de comprendre et en fait que tu nous poses des questions. Comment est-ce que je peux améliorer mon sommeil? Et là, pour le coup, on met en place les capteurs. Comment est-ce que je vais pouvoir être plus précis sur mes séances d'intensité? Et là, justement, on peut mettre en place du lactate. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple quand toi, tu poses la question et que nous, on vient te répondre plutôt qu'on impose
d'uriner
dans un truc. Toi, tu comprends pas à quoi ça sert. Et en fait, ça peut pas marcher.
Exactement.
Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de ça pour dire, OK, j'ai besoin de ça, je veux comprendre ça, je veux rentrer dans mon corps. Et là, pour le coup, on donnera un peu les réponses.
Yohann parlait de test HRV, Anthony. C'est quoi un test HRV? Un test HRV.
Alors la HRV, du coup, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc c'est pour globalement étudier la réponse parasympathique, donc une forme de fatigue en fait nerveuse de l'athlète. Il y a plusieurs façons de mesurer cette HRV. Les outils les plus grand public la mesurent au poignet pendant le sommeil ou au repos. Maintenant, les protocoles, disons, les plus rigoureux sont des protocoles que Johan a pu mettre en place et que de nombreux athlètes font, avec une ceinture cardiaque allongée 5 minutes, puis on se lève 5 minutes statique et on mesure comme ça la fréquence cardiaque.
Bien sûr.
Ensuite, on vient calculer en fait ces fines variations, hein, parce que le battement cardiaque, il n'est pas régulier. Hein. Si on a un cœur qui bat 50 battements par minute, c'est pas un battement à 60, toutes les secondes. Et donc, il y a des micro-variations et... plus cet HRV est élevé, plus en fait le corps est adapté et capable d'avoir une réponse rapide, donc parasympathique, et donc plus on peut dire qu'en fait l'athlète est en meilleure forme.
On a beaucoup parlé du développement des équipements pour expliquer la densification du haut niveau. On a des courses qui se gagnent en quelques minutes maintenant ici à l'Ultra Trail. Est-ce que la prochaine étape, c'est pas la modernisation et justement la vulgarisation des data science dans le quotidien des athlètes?
Je peux juste rebondir là-dessus. Tu as parlé du développement des équipements qui expliquent la densification. Moi, je pense pas que ce soit de la cause, c'est plus une conséquence. C'est d'abord en fait qu'il y a beaucoup plus de pratiquants, donc plus de densité.
Ouais.
Et là, du coup, les gens qui veulent faire la différence se tournent vers de l'équipement et justement la data science. Je pense que c'est plus dans cette façon qu'il faut voir les choses, parce que on voit bien le running est en train de prendre un coup de boost énorme. Entre elles, il y a beaucoup plus de pratiquants et donc on a même genre des images. Moi, quand j'étais petit, il y avait personne qui était une star et maintenant beaucoup plus. Donc je pense que dans 10 ans, bah, en fait, des gens vont être biberonnés au trail et vont venir battre.
Il y a 23 ans ici, ils étaient 173 sur la ligne de départ. Hein. <C'est clair. rire> Aujourd'hui, ils pourraient vendre 100 000 dossards.
Exactement. Et du coup,
on a beaucoup dit que la chaussure à plaque carbone, notamment, avait permis un boom des performances. D'où le fait que les équipements auraient provoqué une densification du haut niveau.
Ouais.
C'est l'inverse du coup.
Je pense que c'est l'inverse. En fait, ça a participé à l'augmentation du niveau, mais la densification, c'est plus parce qu'il y a plus de pratiquants, je pense. C'est surtout ça. Donc l'équipement est en train d'exploser, c'est sûr et certain. Et je pense que l'utilisation des données, bien sûr, de manière raisonnée, va aussi beaucoup aider parce qu'on va mieux se connaître. Et en fait, il y a une certaine forme de ruissellement aussi. Tout le travail, par exemple, qu'on va faire avec des athlètes de haut niveau, qu'on va faire avec Yuan justement sur son marathon, et en fait, on va comprendre des nouvelles choses sur la nutrition à l'effort, etc. On va pouvoir le transmettre dans un podcast devant vous. Et en fait, il y a peut-être 60 000 personnes ou 100 000 personnes qui vont avoir envie de tester un petit peu ce genre de choses. Donc je pense que ça va beaucoup aider, ouais.
Est-ce qu'on peut être prisonnier de ces datas ?
Oui, complètement, et on le voit au quotidien. Et c'est aussi, alors nous, l'idée, c'est, on parlait tout à l'heure de rajouter, en fait, de faire une demande à l'athlète, de mesurer des données. Pour Johan, ça peut être une contrainte. Non, parce qu'il l'accepte, mais sur du long terme, ça peut être aussi contraignant pour certains athlètes. Là, pour nous, c'est des sujets d'actualité, puisqu'à l'approche de l'UTMB aussi, on regarde ses scores de sommeil, ses HRV, etc. Et on se pose la question. Il y a des athlètes à qui on a dit
Ne regarde plus.
Fie-toi à tes ressentis. Ouais.
Exactement. Alors nous, c'est une donnée qui est importante. On veut l'avoir au maximum parce que si on voit que certaines métriques à l'approche de la course sont bonnes, on sait que ce qu'on a mis en place va dans la bonne direction. Donc on pourra le reproduire. Mais si aujourd'hui, en fait, ça va nous permettre de gagner par exemple 1%, mais si aujourd'hui ce 1% on le sacrifie contre 5% parce que ça met une charge mentale à l'athlète et qu'il va aborder sa compétition avec l'impression d'être fatigué, ça vaut pas le coup. Donc oui, on peut en être, et c'est comme, enfin, même sur Strava au quotidien, hein, on voit, il y a beaucoup de gens qui courent à l'allure, qui s'imposent des sorties trop dures quand ils ne devraient pas, quand ils sont fatigués, pour tenir des moyennes. On voit des athlètes qui veulent tenir un kilométrage semaine alors qu'en fait on sait très bien que c'est des cycles qui nous permettent de développer des qualités, le repos, etc. Donc oui, on peut être prisonnier de ces données complètement.
Et jusqu'où on peut personnaliser son pacing dans une épreuve d'ultra trail qui peut durer 100 miles notamment?
Tu peux
prédire justement les points de passage, les temps de passage et sur les endroits où il faut reculer ou ralentir plutôt, d'autres accélérer.
Ouais, bien sûr. Honnêtement, c'est clairement le but, et je pense qu'on peut aller à l'infini, et je pense qu'on va aller de plus en plus parce qu'on va mieux comprendre le modèle physiologique de l'athlète. Donc le but, c'est d'être très personnalisé. Après, ça dépend, en fait, il y a un compromis à trouver entre le temps que l'athlète est prêt à mettre. Est-ce qu'il va faire des tests en chambre de chaleur pendant 10 jours pour comprendre comment est-ce qu'il réagit à la chaleur? Ça, forcément, c'est pas énormément le cas. Est-ce qu'il veut faire 10 sorties de nuit pour comprendre comment est-ce qu'il réagit à l'obscurité? Ça, tu vois, c'est des choses qui sont hyper intéressantes, mais c'est quand même une énorme contrainte pour l'athlète.
Et c'est un coût aussi.
Et ça entraîne de la fatigue, ouais. Ouais. Coût énergétique et coût financier aussi, ouais. Ouais, t'as raison.
T'es prêt, toi?
Alors, j'ai pas la problématique de nuit, donc déjà ça c'est cool. Mais ouais, moi je suis excité, et c'est vrai que même le grand public va se retrouver dans tout ce qu'on dit, à savoir, moi c'est la parole que je prône sur My Running Club, qui est ma société de coaching, c'est pour leur apporter, pour pas qu'ils s'entraînent avec une application, un algorithme ou un plan d'entraînement trouvé sur internet. Je veux qu'il y ait de l'humain derrière et une capacité à avoir un plan qui est adapté à l'athlète. C'est-à-dire que si l'athlète il dit la semaine prochaine je pars en vacances avec ma femme, ou je suis en déplacement pour le boulot, je pars en Chine pendant une semaine, tu vas pas programmer un plan d'entraînement de la même façon que s'il était chez lui et qu'il pouvait faire ses 9 heures de sommeil, ou qu'il avait une bonne période pour s'entraîner. Et l'adaptation du plan d'entraînement dans ces périodes-là est super importante. Et là, c'est pareil avec les datas. On va pouvoir bien bosser, mettre des choses en place pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Ouais.
Et du coup, je rebondis là-dessus, mais est-ce qu'on peut développer les data science au-delà même du sport, Joseph?
C'est-à-dire dans le monde
dans le monde des médias, par exemple, est-ce que le fait de calculer les data peut permettre d'améliorer notre quotidien au final?
Non mais la question est philosophique.
C'est sur de la data science. C'est que en marketing et tout, tu veux dire?
Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'au final, ce qu'on fait, c'est la mesure de données. pour essayer d'estimer notre forme actuelle et de mieux adapter nos réponses à ces formes-là. Donc imaginons que demain, j'ai un projet marketing et que les data science me permettent de montrer qu'un marché est plus ou moins propice et que le lendemain, ça le sera un peu mieux qu'aujourd'hui, et bah, je peux m'adapter là-dessus.
Ouais, et je pense qu'ils sont même bien en avance que nous sur le sport parce que, bah, en fait, c'est des milieux qui rapportent de l'argent. Tout ce qui est en publicité, tu vois, des ads Facebook, bah, je te jure qu'ils sont à des années-lumière de nous en termes d'analyse de données. Et même, tu vois, bah, on va prendre un parc d'attractions. Ils ont des modèles de data science qui prédit justement le prix à quel ils doivent mettre leurs billets en fonction de la météo, des jours fériés, etc. Okay. Donc honnêtement, ils sont vraiment vachement en avance et c'est juste parce que bah, y a beaucoup d'argent, donc ils peuvent mettre beaucoup de moyens aussi dessus. Nous, c'est en train d'arriver et c'est pour ça que la data science ça arrive.
Il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de données du coup qui ont été récoltées. L'expertise donnée dans le sport, finalement, elle est encore jeune, donc on va avoir de plus en plus de données grâce aux athlètes qui jouent ce jeu-là. Et nous, on a vocation aussi à travailler avec plein d'athlètes pour récupérer plein d'infos et en fait les faire progresser tous ensemble. Tout ce qu'on apprend avec un athlète, on s'en resserre pour un autre.
D'accord, donc toutes les erreurs que vous avez fait avant avec les athlètes, c'est bon. J'arrive derrière, je suis tranquille.
Et aussi, dans 10 ans, ils profiteront de l'expertise de Yodu, de son expérience.
Tom Evans, Chris Croft, Yodu, ce sont des athlètes d'élite. L'idée aussi, c'est que demain, ce soit aussi disponible pour des athlètes plutôt amateurs.
Ouais, c'est clairement l'objectif. Et ça, c'est un des points vraiment fondamentaux chez Enduro, c'est vraiment ce ruissellement de la technologie. C'est comment est-ce qu'on peut aider, vraiment d'un point de vue social, la société, justement, à progresser, à se sentir bien dans son corps, etc., et à pas faire des bêtises. Moi, je vois des gens qui se fracassent le corps, qui ont des carences énergétiques, etc. Nous, notre objectif, vu qu'on est capable de mesurer au gramme près justement des consommations de glucides, c'est peut-être d'aider un jour des personnes qui sont en situation de surpoids ou des personnes qui sont diabétiques, justement pour les aider là-dessus. En tout cas, c'est une des grosses missions qu'on a chez Enduro, c'est vraiment de pas que ce soit juste un kiff perso de Yodu qui fait son 2h10, mais que ça aide vraiment la population générale, et ça c'est vraiment important. Ouais.
C'est beau.
Là, c'est bien.
Est-ce qu'on peut prédire le vainqueur d'un UTMB avec la data?
Oui, c'était Odetine. <Odetine.
rire>
Non, je rigole.
On va le recevoir.
C'est super dur, honnêtement.
Mais il faudrait qu'il ait les data de tout le monde. Et...
C'est ça, dans un monde idéal, on peut comparer tout le monde.
Mais là, il n'a pas les adversaires.
Heureusement qu'il y a quand même ce côté imprédictible. C'est ce qui fait, c'est la glorieuse incertitude du sport aussi. Mais c'est vrai que, oui, on serait capable de dire, en faisant des tests physio aux 5 premiers, qui va passer en tête et surtout qui a la résistance musculaire pour gagner la course derrière.
Sauf que sur l'UTMB, il y a un facteur que les data ne pourront jamais remplacer, c'est le mental de l'athlète.
C'est vrai.
Et ça, si l'athlète mentalement il est pas prêt, tu peux avoir les meilleures données physio du monde ou tout ce que tu veux, tu le remplaces pas.
Merci à vous pour toutes ces informations. Merci. On va suivre tout ça et puis évidemment ça va servir à Yodu là pendant 15 semaines.
Détail égale performance.
Exactement.
Voilà, normalement. J'ai plus d'excuses par contre.
C'est pas la recette magique, hein. Faut vraiment que tu sois impliqué et que tu continues de t'entraîner. C'est le 2% de ta perf. Donc, faut continuer.
Il faut faire les 98%.
Je retiens les analyses d'urine aussi. Hein.
Oui.
Allez, ça va être au moins très très précis tout ça. Merci à vous. Évidemment, on va suivre l'aventure Enduro qui, évidemment, est en association avec RMC Running pour ces prochains mois. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le YouTube RMC Running. Et pour finir, toujours les mêmes conseils. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.